Nous, c'est Émilie, Pauline et Léa. Vous écoutez L'écho des mères, le podcast qui parle de maternité, mais pas que. Tous les mois, on discutera d'un sujet qui nous tient à cœur, car on a beaucoup à dire, mais souvent pas trop de place. Alors, on se la crée et on vous embarque avec nous. Bienvenue à bord! Aujourd'hui, c'est juste Léa et Pauline. Dans le premier épisode, on était toutes les deux mères au foyer. Mais ce n'est plus le cas. Léa a repris le travail. Alors, on fait une mise à jour? Bonjour Léa.
Bonjour Pauline.
Alors, comme je disais dans l'intro, t'as repris le travail. Donc, ça fait combien de temps que t'as repris là?
Ça va faire 3 semaines. Donc, c'est rigolo parce que j'ai du mal avec repris le travail parce que c'est... Mais en fait, c'est une parenthèse temporaire pour moi parce que moi, ce que je vais vraiment reprendre, ce sont mes études en septembre. Donc, le travail, c'est jusqu'à fin août. Donc, c'est vrai que pour moi, repris le travail, ça, j'ai l'impression que c'est définitif. Alors que comme c'est une parenthèse, j'ai l'impression que ça ne s'applique pas à moi. Mais en vrai, bah si, j'ai repris le fait d'aller travailler. Donc, oui.
C'est un contrat de plusieurs mois quand même.
Oh oui, du coup, un CDD donc, depuis le début de ce mois d'avril jusqu'au 31 août.
Oui, ça fait quand même une belle période déjà.
Oui.
Et tu fais quoi?
Je suis réceptionniste dans un village vacances. Donc, je m'occupe d'accueillir les clients à leur arrivée, gérer les réservations, faire un peu le lien entre tous les services de restauration, d'animation, bar, etc. D'ailleurs, je fais un peu de bar quand il y a besoin aussi. Donc, c'est assez varié. Et puis, c'est pas mal. Je m'ennuie pas. Après, c'est un job d'été, quoi.
Ça correspond à ce que tu as fait comme étude ou pas du tout?
Oui et non. Oui, dans le sens où c'est dans le tourisme. Et donc, du coup, j'ai un diplôme de tourisme. Et c'est... En général, ce sont des postes qui sont donnés à des BTS tourisme ou moins. Et moi, j'ai un bac plus 3 plutôt. Donc, du coup, on va dire qu'au niveau études, je suis surqualifiée pour le poste. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que voilà, moi, je n'avais pas envie de m'impliquer dans la vie d'un établissement. Je ne sais pas ce que je cherchais. Moi, je cherchais juste à travailler jusqu'à fin août. Donc, ça me va très bien comme ça.
D'accord. Et t'as cherché que dans le tourisme ou t'as cherché dans d'autres choses aussi?
J'ai cherché dans d'autres choses, mais à vrai dire, en fait, j'ai eu le truc un petit peu dans la poche, dans le sens où je commençais juste mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un salon de l'emploi, je suis allée, j'ai donné mon CV, ils m'ont rappelé le lendemain pour avoir un entretien le surlendemain. Et du coup, ils m'ont dit tout de suite que j'étais prise. Et puis, c'est moi derrière qui ai posé mes conditions. Parce qu'en fait, le problème dans le tourisme, si vous m'écoutez, que vous cherchez du travail, allez dans le tourisme. Il n'y a pas de... ils cherchent énormément. Je pense qu'avec le Covid, les gens se sont peut-être dit que le tourisme n'était plus un bon plan pour vivre. Et donc, il y a très très peu de monde qui veut s'engager. Nous, on a encore plein de postes. Ça fait 3 semaines qu'on est ouvert. On a encore plein de postes à pourvoir. Et c'était bien pour moi parce que j'ai pu poser mes conditions. Je suis arrivée en disant oui, donc le week-end là, je ne pourrais pas être là. Le soir là, je ne peux pas être là. J'ai besoin d'une semaine de vacances en plein mois de juin. Et par contre, je veux finir fin août au lieu de mi-novembre.
Et comment ça se passe avec Charlie?
Alors, avec Charlie, ça se passe, on va dire, bien. J'ai la chance, mais je sais pas, parce que bon, j'ai fait aussi exprès pour que mes horaires soient en décalé. Donc, c'est-à-dire que normalement, parce que bon, c'est pas le cas tous les jours, mais en général, normalement, je travaille soit du matin, donc je fais 7h30, 14h, soit de l'après-midi, je fais 13h30, 20h. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est que ça me laisse soit la matinée, soit l'après-midi avec Charles. De plus, mon mari travaille le matin assez tardivement, puisqu'il commence à 9h. Donc, ça fait qu'on n'est pas obligé, quand je suis du matin, de mettre Charlie à 7h à la crèche. Ce que j'aurais pas voulu, parce que c'est pas du tout dans son rythme. Donc, voilà. Pour Charlie, les 2 premières semaines, ça a été nickel. En plus, j'avais un peu peur parce que la première semaine, c'était mon premier week-end sans lui. Donc, j'ai fait une nuit sans lui. Donc, je me suis dit, oh là là, reprise du... Bah, reprise. Pour lui, c'est pas une reprise puisqu'il ne m'avait jamais vu travailler. Mais le fait que je ne sois pas là déjà la semaine, plus le week-end, il va avoir une première nuit seul, ça va faire beaucoup. Finalement, ça s'est super bien passé. Bon, il y a eu des petits... Des petites problématiques, mais bon, je veux dire, par rapport à ce à quoi on s'attendait, on était super contents. Après, la semaine d'après, comme sur des roulettes, tout s'est bien passé. Depuis la semaine dernière, c'est un petit peu plus dur. Parce que, alors, deux choses. Déjà, un, je pense qu'il a commencé à comprendre que c'était pas que temporaire. Un petit peu frustré de ne pas avoir autant de temps avec moi que ce qu'il avait avant. Cependant, quand il est avec moi, ça se passe très bien. C'est juste avec son père où c'est plus difficile. Mais d'un côté, je me dis aussi peut-être que c'est une histoire du fait que son père est en train de devenir sa co-figure d'attachement. Donc peut-être qu'il se lâche plus avec son père aussi que ce qu'il faisait avant. Donc peut-être finalement que c'est pas forcément une mauvaise chose. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on l'a amené à mon travail. Donc il était très 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 content de voir mon travail. Surtout qu'en plus, l'été... on accueille des enfants, donc du coup il y a toute une installation pour les enfants, etc. Donc il était trop content d'aller, et donc du coup il me demande tous les jours quand je vais au travail de venir au travail avec moi. Donc, et ça le fait pleurer, donc voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, franchement, dans l'ensemble, je suis vraiment très contente parce que je trouve qu'il s'adapte très bien. Là par exemple, ce matin, j'appréhendais un petit peu parce que le fait que je lui dise que je n'allais pas au travail, mais j'avais besoin d'un temps sans lui pour faire l'enregistrement du podcast, j'appréhendais. Puis finalement, il était très très content d'aller avec son père. Je vois quand même que ça les a vachement rapprochés. Je vois que mon mari, il en chie un petit peu plus parce que du coup, comme je disais, peut-être que Charlie se lâche un peu plus avec lui. Mais en même temps, il a beaucoup plus de moments avec lui où ça se passe très bien. Et en fait, ça s'équilibre aussi avec moi. Donc du coup, ça fait du bien aussi.
Et est-ce que tu appréhendais de reprendre une activité, sans parler par rapport à l'organisation, à la maison avec Charlie, tout ça, mais le fait que tu as été hors du monde du travail pendant un petit moment, est-ce que tu avais peur, je sais pas, les relations avec tes collègues, la hiérarchie, les tâches à faire qui sont pas forcément toujours très logiques, mais qu'on te demande de faire, ce genre de choses, est-ce que tu appréhendais ce côté-là du travail?
J'ai envie de dire que non, parce que d'un côté, le fait d'être réceptionniste, déjà par rapport à ma confiance en moi, le fait d'être réceptionniste, d'avoir du coup une tâche que je connaissais, même si bon, je connaissais pas le village vacances où je suis actuellement et les logiciels sur lesquels il travaille, mais voilà, j'ai déjà effectué ce poste par rapport à mon diplôme et tout, comme je disais, c'est des choses qui sont faciles pour moi au niveau des tâches. Donc du coup je me mettais pas du tout en difficulté par rapport à ça, donc ça allait. Moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'on m'oblige à porter un soutien-gorge et qu'on m'oblige à me maquiller. J'ai de la chance que... Alors je sais pas, bon, peut-être que le soutien-gorge c'est parce que j'ai pas beaucoup de seins, donc ça se voit pas. Ça c'est peut-être, j'avoue, un avantage par rapport à certaines autres personnes. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien parce qu'en tout cas, personne m'a fait de réflexion. Le maquillage, je m'en suis imposée certains jours de moi-même, ça m'a gavée d'ailleurs. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a personne qui m'a fait de remarque. Parce qu'on aurait pu me dire, parce que par exemple, on m'a dit les chaussures, parce que j'avais des petites chaussures roses. Il dit qu'il fallait des chaussures noires, donc bon, j'ai mis des chaussures noires. Voilà, il y a un uniforme à respecter, mais c'est vrai que pas du tout fait suer pour le maquillage, donc ça, j'étais contente. Après, j'avoue que travailler à côté de la cuisine, c'est moi qui coordonne, par exemple, pour aller faire les menus et les trucs comme ça. Je vois la viande qui circule tous les jours, je vois... Donc ça, c'est un petit peu plus dur. C'est par rapport, du coup, pour ceux qui savent pas, parce que je suis végétarienne, c'est vrai qu'il faut peut-être le dire, sinon ça n'a pas de sens. Après, bon, ça me gêne moins que ce que j'aurais pu penser. D'un point de vue écologique, bon, il y a des trucs que je trouve un petit peu aberrant, mais c'est pas... Dans le feu de l'action, ça me gêne moins que ce que j'aurais peut-être pu appréhender, même si je sais pas vraiment si j'appréhendais, c'est peut-être un peu dur à dire. En fait, j'appréhendais tellement pour l'organisation avec Charlie que du coup, c'est vrai que je me suis pas trop posé ces questions-là. Mais ça va, je le vis pas trop mal. La seule chose que je vis mal, et c'est les relations avec les collègues quand ça va pas. Parce que niveau social, ça m'a énormément fait du bien de travailler. Ça me fait énormément de bien de travailler. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur par rapport à ma reprise d'études, parce que ma reprise d'études, c'est pas dans une fac, aller à la fac, c'est une reprise d'études en distanciel. Donc, je vais voir encore personne. Et ça m'inquiète un petit peu, parce que là, je vois bien que ça me fait vraiment du bien d'être avec des adultes, que ça soit avec les clients, d'avoir la relation avec le client ou les clientes, avec les personnes avec qui je travaille. Cependant, c'est quand tout va bien. Il y a eu des petits soucis au travail la semaine dernière, donc que ça soit entre les personnes ou alors par rapport à l'organisation de travail, etc. Ça, je sais pas du tout gérer. Alors, c'est pas du tout en rapport avec moi. Il n'y a absolument personne qui m'a fait des remarques négatives ou qui m'a crié dessus ou je sais pas quoi. C'est entre les gens et c'est vraiment pas mon service qui est concerné. Mais en fait, le fait d'entendre crier, le fait d'entendre se disputer, le fait d'avoir le stress, je prends tout et ça me touche personnellement comme si c'était moi qui étais au centre des trucs alors que pas du tout. Et du coup, ça me fait... ça me fait pas me sentir bien. D'ailleurs, là, je suis tout bloquée du dos. Et je pense que c'est une des raisons. Parce que c'est le stress et je supporte pas ce stress-là. Je supporte bien le stress des coups de bourre. Par exemple, quand je suis au bar et qu'il y a plein de personnes en même temps. Ou même des problèmes au travail, dans le travail, mais dans les collègues. Même avec les clients, par exemple, ça va. Mais dans les collègues... Parce que ça touche pas mon travail, ça touche les relations humaines, ça j'arrive pas du tout à gérer. Et en fait, je prends tous les sentiments des autres et ça, c'est très 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 dur pour moi. Et ça me fait vraiment me poser des questions sur comment je peux m'intégrer dans la société. Parce que là, le fait d'être dans ma bulle, etc., ça va, parce que du coup, je côtoie les gens que j'ai envie de côtoyer. Mais d'un côté, je vois bien que ça me fait du bien de côtoyer des gens hors de ma bulle, hors de ma zone de confort, etc. Mais en même temps, ça me fait du mal et je sais pas gérer tout ça, quoi.
Je pense que c'est comme dans toutes les situations de la vie. Il y a des trucs bien et d'autres moins bien. Il faut gérer avec les avantages et les inconvénients de chaque situation.
Oui, absolument. Ouais. Oui, tout à fait.
Ouais. Moi, je t'avoue qu'en ce moment, je commence à me demander si je reprendrai pas un job salarié.
D'accord.
Ça fait quelques semaines que j'y pense, comme ça. De temps en temps, je me dis bon, parce que on vit sur le salaire de mon mari, concrètement. Moi, j'ai mon activité de maîtrise de portage, mais honnêtement, on peut clairement pas en vivre. En tout cas, moi, je peux pas. Et parfois, j'aimerais bien avoir de l'argent, quoi. Juste pour être un minimum libre de ce que j'en fais, voilà. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, je vais reprendre un travail pour... Quoi déjà ? Parce que moi, je suis commerciale de formation à la base. Et là, actuellement, je me vois pas du tout, mais pas du tout, repartir en clientèle, repartir sur les routes pendant des heures et des heures tous les jours. Parce que clairement, c'est des horaires, c'est pas gérable, quoi, avec des enfants. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Donc, reprendre quoi ? Un travail à 35 heures ou moins pour avoir du temps pour les enfants, pour gagner quoi ? 1000 euros ? Sachant qu'il va falloir payer des gardes, la garderie pour Mélissa, la cantine, la crèche pour Selma, il me restera quoi ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de repartir travailler pour quelques centaines d'euros ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je suis pas convaincue. J'ai un peu du mal à me dire que voilà, il faudrait que je reprenne un travail où je gagne bien ma vie pour me dire voilà, j'ai pas vu mes enfants de la journée. Mais ce week-end, on va pouvoir faire ceci ou cela. Là, en reprenant un job auquel moi je pourrais prétendre, je suis pas sûre que ça en vaille le coup. Même si j'aimerais bien reprendre le travail pour avoir, comme tu dis, des relations avec les adultes au quotidien. Après, si je replonge dans mes souvenirs, j'ai jamais trop aimé l'ambiance au travail. Le fait d'être cloîtrée là toute la journée avec des gens que j'aime pas forcément, qui m'aiment pas forcément non plus. C'est parfois très très frustrant pour moi parce que j'ai du mal, mais vraiment j'ai du mal avec la hiérarchie, l'autorité et tout ça. Souvent, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais mes responsables plus cons que moi. Donc c'était très très dur d'obéir à des gens qui me demandaient de faire des trucs complètement contre-productif, illogique, idiot parfois, mais tu peux pas discuter, t'as pas le choix parce que c'est lui le chef, quoi. Et ça, je me dis, si jamais je repars là-dedans, je suis pas sûre que ça va me plaire. Après, il y a des jobs où ça s'est bien passé, mais j'étais plus indépendante, mais donc il y avait plus d'heures. Et ça, c'est pas gérable avec les enfants. Donc là, je suis en train de me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que ça en vaudrait vraiment la peine? Quelles sont mes réelles motivations? Parce que du coup, c'était quoi, toi, tes motivations pour reprendre là tout de suite un job avant de reprendre les études?
Moi, je pense que c'était peut-être une décision peut-être plus facile, parce que comme je dis, comme c'est une parenthèse, je me suis pas dit c'est un truc définitif, c'est long, c'est vraiment très daté, donc du coup j'ai pas eu toutes ces réflexions là. Je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas réfléchi à est-ce que j'ai des appréhensions par rapport au monde du travail, parce que voilà, c'était on fait ça pendant 4 mois et puis après c'est fini. Mais pour revenir à mes motivations, alors elles étaient plusieurs. De un, je commençais à galérer avec Charlie. Je sentais bien que j'avais besoin de faire autre chose parce que en fait j'arrivais plus trop à gérer les crises émotionnellement. Ça devenait dur pour moi. Et donc du coup je me suis dit il faut que je coupe, il faut que je fasse autre chose pour pouvoir remplir mon besoin de socialisation qui est complètement à sec et mon besoin d'utilité. Parce que en même temps, c'était dur avec Charlie, mais en même temps, ça devenait plus facile. Dans le sens où, franchement, depuis 2-3 mois là, on est dans une phase. Alors oui, quand il y a des débordements émotionnels, c'est beaucoup plus dur, mais il est de plus en plus autonome. Genre, il peut jouer pendant 1h30 tout seul, des choses comme ça. Et du coup, je me sentais plus utile, comme si je servais plus à grand chose. Et aussi, c'est peut-être moi qui me détache de là-dessus. Et j'avais envie vraiment de faire autre chose que de juste être l'éducatrice en fait de mon enfant. Parce que j'ai pas du tout envie d'être autre chose que la maman de mon enfant. Hein. Mais je pense que quand on est parent au foyer, on a plusieurs casquettes, dont éducateur, et c'est cette casquette-là que j'avais pas envie de garder pour le moment. Même si, évidemment, je la lâche pas complètement, hein, parce que ça veut pas dire que je n'éduque plus du tout mon fils. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était parce que, avec l'augmentation là, du coût de la vie, on va pas dire que c'est dur financièrement, mais en gros, on peut plus faire... Quand on a fini de payer tout ce qu'il y a à payer d'obligatoire, on n'a presque plus rien. Donc on aurait pu très bien se dire, bon voilà, c'est que pour peut-être un petit moment, etc. Après ça ira mieux, machin. Et on se serre la ceinture, mais on a préféré pouvoir être plus libre, parce que moi je trouve que comme ça on est plus détendu aussi, le fait d'avoir plus d'argent. Donc ça a été aussi un moteur. Et le troisième moteur, c'est vraiment une expérience sociale. Et je pense que c'est mon plus gros moteur. Dans le sens où, là, je vais reprendre mes études en études de genre. Mon projet, c'est quand même de travailler beaucoup sur... D'ailleurs, je pense que ça va être mon sujet de mémoire. J'ai pas encore exactement trouvé par quel angle faire, mais sur le parent au foyer, la femme au foyer. Donc, j'avais besoin, pour vraiment être dans ma peau de chercheuse, de voir qu'est-ce que ça faisait d'être mère non au foyer. Parce que je pense que pour travailler sur le parent au foyer, j'avais besoin de voir l'autre côté. Parce que j'avais pas envie de critiquer... Alors, je dis pas ça dans le sens négatif, hein, parce que bon, le but d'un chercheur, d'une chercheuse, c'est de critiquer de façon constructive. J'avais pas envie de critiquer la posture de parent au foyer ou de critiquer la posture de parents qui travaillent sans connaître les deux côtés. Alors évidemment, c'est pas les mêmes temps, parce que c'est pas la même chose de travailler quand ton enfant il a 2 ans et demi, presque 3, et quand il a 6 mois, voilà. Donc si ça se trouve, je l'aurais bien plus mal vécu l'inverse, ça dépend du travail, etc. machin. Mais j'avais quand même besoin de voir qu'est-ce que ça peut être l'organisation, qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage, qu'est-ce que ça peut apporter comme inconvénient, et qu'est-ce que pratiquement ça fait dans ma famille. Donc vraiment, ça c'est vraiment ma motivation première, c'est vraiment un but sociétal. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une famille avec des parents qui travaillent tous les deux à 35-36 heures, parce qu'on travaille tous les deux 36 heures sur nos... contrat c'est 35 mais on fait 36 en règle générale. Qu'est-ce que ça fait par rapport à l'organisation, par rapport au coût de la vie, par rapport à l'implication des parents, qu'est-ce que ça fait par rapport au comportement de l'enfant, etc. etc. Vraiment, ça, c'était ma plus grosse motivation.
Et du coup, c'est quoi les études de genre ?
C'est des études qui sont pluridisciplinaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la psychologie, il y a de l'histoire, il y a de l'histoire des arts, il y a de la sociologie, il y a de la science politique, etc. Mais vu à travers le prisme du genre. Donc, c'est-à-dire à travers des questions femmes-hommes, donc de féminisme... Et aussi de tout ce qui est discrimination, que ça soit donc du coup lié au sexe, au genre, et aussi du coup tout ce qui est à l'orientation sexuelle, donc lesbienne, gay, et aussi trans, aussi les questions queer en général, donc avec les personnes trans, avec les personnes intersexes, etc. Donc c'est surtout c'est tout ça.
D'accord. Et ça mène à quoi, ça, comme travail ?
Ça peut mener à pas mal de choses. Alors, c'est des études qui sont très récentes. Hein. Les masters, donc le master que je vais faire, c'est ouvert depuis 5 ou 6 ans, je crois. Ça peut ouvrir, par exemple, sur des postes dans des associations pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Ça peut être conférencière dans des entreprises, par exemple, pour aider pour des missions égalité femmes-hommes. Ça peut être, je ne sais pas, moi, par exemple, travailler dans les lycées à l'éducation sexiste et sexuelle. Voilà, moi, ce qui m'intéresse... En fait, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et c'est difficile parce que pour l'inscription, ils demandent de faire une feuille avec marqué le projet professionnel, mais moi j'ai besoin de voir un petit peu ce que c'est les études avant de définir ça, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Les deux grands pôles, c'est du coup ce que je disais par rapport aux parents au foyer, donc du coup l'éducation, la répartition des tâches dans le foyer, etc. Et tout ce qui est éducation non genrée. Par exemple, travailler avec les crèches, avec les écoles pour les faire avancer sur le fait de ne pas genrer les enfants dans les apprentissages, etc. Ça m'intéresse énormément d'étudier par exemple les familles qui font de l'éducation non genrée pour voir l'impact que ça peut avoir sur les enfants, en avantage et en inconvénient, on va dire. En fait, c'est très dur pour moi de dire ce que moi j'ai envie de faire avec ça, parce que je sais même pas du tout si j'ai envie d'aller dans la recherche, si j'aurai la possibilité d'aller dans la recherche, parce que il faut aussi, si je fais une thèse, ça veut dire beaucoup plus d'années où je suis non rémunérée, donc ou si au bout du master, eh bien je vais chercher du travail, donc voilà.
Mais il y a quand même une volonté de travailler avec ce diplôme que tu vas obtenir.
Oui, absolument. Moi, c'est mon but vraiment là de reprise d'études, en fait, ça c'est une double implication, dans le sens où c'est pour me faire apprendre des choses que j'adore, et du coup à terme de trouver un travail dans cette branche là qui correspond beaucoup plus à mes valeurs qu'au tourisme, parce que je parlais du Covid par rapport au fait que ça avait détourné le tourisme, parce que les gens ils se rendent compte que c'est quelque chose qui a très mal marché pendant le Covid, hein, puisque certains établissements étaient fermés et tout, donc pour des raisons économiques. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup eu de prise de conscience, dont moi-même, dont le fait que moi, par exemple, je n'ai plus du tout envie de vendre des séjours à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, ça me gêne moins, mais même à l'autre bout de la France en avion, des choses comme ça, pour des raisons écologiques, je ne me vois pas en fait vendre plein de choses et de participer à une industrie qui pollue, quoi. Donc je reviens à la question de départ, à savoir pourquoi je voulais reprendre les études. Donc oui, c'est pour avoir un job derrière, mais c'est aussi pour me permettre de, au moins les deux premières années, donc les deux prochaines années, pardon, de pouvoir m'organiser comme je veux pour être présente pour l'école maternelle pour Charlie. Ça, c'était important pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à ce que mon contrat, de mon travail actuel, se termine le 31 août, pour que je puisse, à partir de septembre, être entièrement disponible, parce que moi je commence que le 24 septembre, je crois, mes cours, entièrement disponible à la transition en fait de Charlie, à l'adaptation de Charlie à l'école, etc., de pouvoir aller le chercher à l'école, de pouvoir, s'il va pas à la cantine, de pouvoir le faire manger à la maison, etc., etc. Donc ça, c'était très très important pour moi. Si par exemple, demain, mon mari me disait « je veux arrêter de travailler pour m'occuper de Charlie », ça me dérangerait pas du tout d'inverser les rôles. Hein. Je dis ça, c'est vraiment... Je veux vraiment être claire que c'est pas parce que c'est moi et que c'est moi la mère que je me dis que c'est à moi de faire ça. On en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais là, c'est la force des choses. Là, il est dans un travail qui nous permet, en fait, qui a une rémunération qui nous permet de vivre tranquillement, assez tranquillement, parce que bon, il y en a qui sont beaucoup plus aisés que nous, mais voilà, avec son salaire. Et alors que moi, par exemple, là, moi, je suis au SMIC, donc à deux, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est dans cette mesure-là. Mais si jamais il me disait le contraire et par exemple que je trouvais un travail assez éloigné pour que lui puisse démissionner et toucher le chômage pour rapprochement de conjoint, ça pourrait m'aller aussi, quoi. Mais oui, donc tout ça pour dire que en fait c'est juste que je veux que un de nous, ou alors par exemple franchement s'il y avait les grands-parents qui avaient vraiment un rôle dans notre vie qui était très très important, ça ne me dérangerait pas non plus que ce soit les grands-parents d'ailleurs, mais c'est pas le cas dans notre façon de faire famille. Mais voilà, en fait, je veux qu'il y ait un adulte qui ait la figure d'attachement principale, coprincipale ou même secondaire de Charlie, qui soit là hors des temps d'école pour lui tout le temps. Par la force des choses, c'est moi. Mais et voilà, c'est un besoin de notre famille, de la façon dont on veut... élever Charlie, et avec lequel on est d'accord tous les deux d'ailleurs, avec mon mari. Parce que toi, du coup, par exemple, tu parlais de penser à reprendre le travail, c'est pas quelque chose du tout que vous pourriez mettre en place, que ce soit toi qui travailles et ton mari qui ne travaille plus?
Non, parce qu'honnêtement, mon mari, il est très inquiet des questions d'argent. Donc si moi je reprenais le travail, à moins d'avoir un salaire qui double le sien, il arrêterait pas de travailler. Il arrêterait pas de travailler. Par contre, à un moment donné, on s'est posé la question, parce qu'il y a des collègues qui font ça. Je crois que c'est à partir du deuxième ou du troisième enfant, où tu peux prendre un 80%, je crois, ou un mi-temps, et la CAF complète ton salaire.
D'accord.
Il y a des collègues hommes qui font ça.
D'accord.
Donc moi je savais pas que ça existait, lui non plus, et en fait c'est son collègue. Parce qu'il lui dit, mais attends, tu travailles qu'à mi-temps, comment tu fais et tout. Et il lui dit, ben non, mais en fait, c'est pour m'occuper de mes enfants, donc c'est la CAF qui complète mon salaire. Donc ça, il m'a dit, si toi tu reprenais le travail, moi je pourrais peut-être faire ça. Mais en toute honnêteté, il le supporterait pas très longtemps de devoir s'occuper des enfants et tout ça, parce que des fois je vois, comme je disais dans le premier épisode, maintenant j'arrive un peu plus à me détacher, à prendre du temps loin et tout ça. Hier par exemple, je suis allée voter, puisqu'on enregistre cet épisode au lendemain du second tour des élections présidentielles. J'ai été voter, sauf que moi je me suis pas réinscrite sur les listes électorales de ma ville, alors que j'y habite depuis 10 ans. Donc je vote toujours chez mes parents, qui habitent à 20 minutes de chez moi. Et comme au premier tour, il y avait jusqu'à une heure d'attente pour voter dans mon bureau, je me suis dit, je vais pas emmener les enfants parce que Selma, Meïssa et tout, devoir attendre une heure dans une file d'attente, c'est pas terrible quoi. Donc je voulais pas les emmener. Donc je lui ai laissé les enfants. Bon, finalement il y avait personne au bureau de vote, hein, mais je lui ai laissé les enfants. Je suis rentrée au bout de 2h30, je dirais, parce que je suis quand même passée dire bonjour à mes parents. Quand je suis arrivée, il était au bout de sa vie. Meïssa était en train de pleurer parce que sa sœur avait colorié sur son dessin. Lui, il était dans le canapé, affalé, en mode je vais crever, avec son téléphone à la main, en train d'essayer de m'appeler. Alors que bon, j'étais arrivée, donc j'ai pas décroché. Voilà, je me dis, si je le laissais toute la journée avec les enfants régulièrement, pas une fois de temps en temps quand j'ai un truc à faire, mais genre tous les jours, quoi. Non, je pense que lui finit à l'hôpital, vraiment, parce que il peut pas, il est pas prêt pour les tempêtes émotionnelles, il est pas prêt pour les demandes incessantes, il est pas prêt, il a besoin d'être tranquille, parce que sinon il devient fou. Donc gérer deux enfants en bas âge qui sont en demande perpétuelle, autant Selma est très autonome, autant Meïssa le devient de plus en plus, mais il y a quand même des trucs à gérer. Maman, je vais aux toilettes, j'ai besoin d'aide pour m'essuyer. Maman, j'ai faim, donne-moi un truc à manger que j'arrive pas à attraper. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que si, est-ce que ça? Les demandes ne s'arrêtent jamais quand on est maman au foyer, on le sait. Donc mon mari, lui, il est pas... Non, je pense que ça... Il est pas fait pour ça. Des fois, il me le dit, hein. Il me dit, ouais, bah si ça continue comme ça, moi, je vais arrêter de travailler et puis toi, tu vas retourner travailler ça. Je lui dis, mais du coup, tu t'occuperas des enfants ? Non, mais ça, non, par contre. Ah bah oui, mais non, alors. Non. Donc non, ça, c'est... moi, chez moi, c'est pas envisageable du tout. Après, qu'on travaille tous les deux, ça peut l'être. Mais je t'avoue que moi, ça m'angoisse vachement aussi de me dire de reprendre le travail et j'aurai quand même tout le reste à gérer. Parce que je sais qu'il fera pas plus parce que je travaille. Il fera pas plus de ménage, il s'occupera pas plus des enfants, il fera pas plus à manger, il fera pas plus les courses. Non, ça sera toujours à moi de le faire. Et ça, je le vois beaucoup autour de moi. J'ai beaucoup d'amis qui étaient en congé parental. Alors, pas mère au foyer, hein. On va dire qu'ils n'avaient pas la vocation d'être mère au foyer, mais qui avaient pris un congé parental à la suite de la naissance de leur premier ou leur deuxième enfant, et qui m'ont dit, quand j'ai repris le travail, j'ai cru que j'allais crever. Parce que bah, le conjoint s'est habitué à ne rien faire, parce que bah, l'autre est à la maison, donc pourquoi est-ce qu'il ferait ? Hein, c'est vrai, on est là pour ça. Donc, du coup, on prend l'habitude.
Évidemment, c'est de l'humour, puis... hein, pour ceux qui passent et qui comprennent pas notre humour, c'est de l'humour. Hein.
Bah, du sarcasme. C'est de l'humour, évidemment. C'est du sarcasme, c'est ironique. Mais le fait est que dans la réalité, c'est ça, c'est ce qu'ils se disent. C'est-à-dire que tu es à la maison, donc tu n'as que ça à faire, bien sûr. Et c'est ton rôle, c'est ton travail. Même si on est d'accord que ce ne doit pas être une façon de penser, hein, bien souvent, dans les couples, c'est ce qui se passe. Quand il y a un des deux parents, et on ne va pas se mentir, c'est principalement la mère qui est au foyer, le conjoint se dit, c'est bon, la logistique domestique est gérée, je n'ai pas à m'en occuper. Et quand tu reprends le travail, il ne s'en occupe pas. Et t'as beau taper du poing sur la table, t'as beau dire, t'as beau faire... Le linge, il s'est entassé dans les panières, l'évier, il déborde, et tout ça, il faut le rattraper. Et souvent, bah, c'est pas monsieur qui fait, c'est madame. Parce que madame, elle a cette habitude et cette conscience, et surtout, bah, comme on disait dans le premier épisode, je crois que c'est Emily qui me disait ça, mais les hommes sont égoïstes. Les hommes sont égoïstes. Ils pensent que leur temps est plus valable, a plus de valeur que celui de leur conjointe qui n'a qu'à le faire. Et puis si c'est pas fait, bah t'auras qu'à le faire demain. Oui, mais non. Et après, quand tu travailles, ça devient compliqué. Donc moi, ça m'angoisse un peu de me dire qu'en plus du travail à 35 heures, une fois que j'aurai fini ma journée, je devrais recommencer ma journée que j'ai déjà en ce moment. Alors certes, ça sera sans doute moins de ménage, parce que bah, quand t'es pas à la maison, forcément tu salis moins. On peut se dire aussi qu'avec plus d'argent... je pourrais éventuellement avoir une aide, on peut l'envisager. Mais moi, connaissant mon couple, je sais que ça n'arrivera pas. Et il y aura tout le reste à gérer, c'est-à-dire que là, je mets les habits que j'ai chez moi. C'est pas nickel, c'est pas très grave. Je veux dire, à moins que j'ai un rendez-vous important ou, je ne sais pas, une réunion à l'école ou quoi que ce soit, si je suis en survêtement, je suis en survêtement, c'est pas dramatique. Par contre, si je travaille, surtout que, bah, a priori, si je retravaille, ça serait dans le commerce, bah, il faut que j'ai des vêtements présentables, parce qu'il y a encore cette notion de il faut bien présenter quand on travaille en clientèle. Donc, il faudrait que je m'habille, donc il faudrait que je gère d'aller m'acheter des habits, chose qui est plutôt compliquée pour moi aujourd'hui, parce que bah, déjà... le prix des choses m'effraie largement. Et en plus de ça, on va pas se mentir, mon corps a changé après deux grossesses et j'ai vraiment du mal à apprécier mon image, en fait, quand j'essaye des vêtements ou ce genre de choses. Là, j'ai pas à faire attention, donc j'ai pas à me regarder, si tu veux. Ouais. Mais si je recommence à travailler, il va falloir que je m'habille, certainement qu'il va falloir que je me maquille, il va falloir que je me coiffe, et ça c'est encore du temps que je n'aurai pas, de toute façon. Il va falloir que je le prenne quelque part. Et je vais le prendre sur quoi ? Sur ce que je peux prendre. Donc ça va être sur les enfants. Et ça, j'ai encore du mal à me dire... voilà quoi. Soit les enfants, soit le sommeil. Alors vu que j'ai déjà le sommeil, j'en ai pas beaucoup. Non, ça va pas être tenable quoi. Donc ça m'inquiète beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de reprendre pour tout ce que tu dis. Parce que voilà, c'est quand même agréable de se sentir utile et tout. Même si moi, je me sens encore utile parce que j'ai un bébé encore. Donc oui. Voilà. Même si Selma est très autonome, donc... elle peut, elle aussi, jouer pendant plusieurs dizaines de minutes seule, sans aucun souci. Mais je me sens quand même utile, même vis-à-vis de Meïssa, je me sens utile. Je sais qu'elle apprécierait pas spécialement d'aller à la garderie. Elle me le dit souvent, d'ailleurs. Moi, je veux pas aller à la garderie, parce que quasiment tous ses copains de l'école vont à la garderie, que ce soit le matin ou le soir. Et elle me le dit, moi, je veux pas y aller, je veux pas aller au centre aéré, je veux rester avec toi, maman. Donc, Après, je sais qu'elle s'habituerait, que si ça se trouve, elle adorerait aller au centre aéré avec les copains et les copines, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a cette notion de je vais rajouter quelque chose de chronophage alors que déjà actuellement je n'ai pas de temps.
Alors, juste un petit laïus par rapport au fait que par exemple là tu parlais de la garderie. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce moment-là, là, donc à savoir qu'il n'est pas encore rentré à l'école pour travailler parce qu'en fait, moi ce que je trouve assez pratique, on va dire entre 2 et 3 ans, parce qu'avant 2 ans, bon, c'est pas que je suis pour ou pas ou contre de travailler, mais c'est juste que bah, pour moi, vu notre organisation avec Charlie, l'enfant qui était Charlie et les demandes qu'avait Charlie, ça m'aurait embêté qu'il soit autant de temps à la crèche. Mais en fait, moi, ce que je trouve bien entre 2 et 3 ans, en fait, c'est que la crèche, là, par exemple, il y va pas tant que ça. Il y va presque autant de temps que ce que je le mettais, ce que j'en avais parlé dans le premier épisode, que Charlie allait à la crèche même si j'étais au foyer. Donc par exemple, il allait des matinées pendant que je faisais le ménage ou des choses comme ça pour être tranquille, par exemple pour faire mon batch cooking ou des choses comme ça, et pour que lui puisse aussi faire des activités que je ne proposais pas à la maison et puis de jouer avec des enfants. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que la crèche, elle s'adapte à nos horaires. Donc, du coup, comme je dis, il n'est pas si souvent que ça à la crèche. Après, il passe du coup une ou deux journées avec sa grand-mère par semaine. Donc finalement, c'est du temps qualitatif et tout le temps. En fait, il est gardé pendant que je travaille ou pendant qu'Alexis travaille. Sinon, le reste du temps, quand c'est moi qui ne travaille pas, il est avec moi. Quand c'est Alexis qui ne travaille pas, parce qu'Alexis, du coup, il travaille 4 jours par semaine, ça aide aussi, ouais, ça aide vachement. Il fait ses 36 heures, mais sur 4 jours. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même bien, parce que finalement, tout le temps où nous, on est là, on est ensemble. Alors qu'à l'école, à moins d'avoir exactement les mêmes horaires que ton enfant, ce qui est vraiment, on va pas se le cacher, il y a quand même très très peu de jobs qui sont sur les mêmes horaires. C'est ce que tu dis, il faut aller à la garderie, il faut aller machin, et ça rajoute en fait des heures où ton enfant est séparé de toi, et toi t'es séparé de ton enfant, et du coup, en fait, vous vous voyez plus. Et moi, c'est pas forcément ma notion de la famille, alors que maintenant, franchement, moi, je trouve ça assez adapté parce que du coup, là par exemple, il est en train de. Aujourd'hui, c'est le jour de congé de mon mari. Donc là, ce matin, c'est pour ça que me suis permise de faire le podcast. Il est parti au lieu d'accueil enfants-parents avec son père. Demain, on va à un autre lieu, tous les deux, pour faire des activités. Mercredi, il va aller à la musique avec ma mère. Et vraiment, tout le temps où moi je suis là, je suis avec lui. Donc, ça m'amène à un autre truc, à savoir que par contre, être parent au foyer, alors pas d'enfants vraiment en bas âge, mais c'est vrai que j'avais une espèce de liberté que je n'ai plus, à savoir que comme je gardais quasiment tout le temps mon enfant, quand il était gardé, c'était j'avais pour faire des choses pour la maison, mais aussi pour avoir du temps libre. Et là par contre, c'est vrai que j'ai du mal à prendre le temps libre. Là, je l'ai pris parce que, en fait, le podcast, pour moi, c'est vraiment... ça me fait presque partie d'une dynamique de travail par rapport à mon master, etc. Mais sinon, j'ai du mal à prendre du temps libre hors de Sidor. Donc, par exemple, je vais au cinéma le soir. Mais sinon, j'ai du mal à me dire, je vais le laisser encore en plus. Alors qu'avant, j'avais pas du tout cette problématique. Puisque je me disais, parce qu'en fait, moi c'est comme ça que je le ressens et que je le ressentais quand j'étais enfant, c'était que j'adore être avec ma mère, mais tout le temps, en tant qu'individu, être tout le temps avec un autre, parfois c'est relou. Donc du coup, en fait, je n'avais plus du tout ce problème. Alors, je ne parle pas de quand il était tout petit et qu'il avait besoin de moi tout le temps, mais depuis qu'il a 2 ans, parfois il me disait je voyais bien qu'il avait envie de faire autre chose. J'ai pas du tout envie de prendre culpabiliser comme mot parce que je le trouve trop connoté et il me va pas du tout, mais c'est vrai que je ne ressentais pas du tout de sentiment négatif au fait de le laisser pour faire quelque chose pour moi, alors que maintenant c'est plus compliqué parce que déjà que je vois que il pleure un petit peu quand je pars au travail, donc c'est sûr que j'ai pas envie qu'il se mette à pleurer parce que moi je vais aller boire un un café avec une copine. Je ne bois pas de café, j'ai pas de copine, mais bon, c'est pas grave. C'est avec des copines, mais du coup, je me suis fait des copines avec Charlie, donc ça, c'est bien, parce que l'autre jour, on était allé prendre un gâteau, parce que ça, les gâteaux, je mange, et donc, du coup, bah, c'est bien, parce qu'on était ensemble avec les autres enfants de mes copines. Tu parlais de la répartition des tâches. Ça, je voulais vraiment revenir dessus, parce que c'était vraiment une des choses qui me faisait le plus peur et une des raisons pour lesquelles j'ai repoussé le fait de travailler, parce que ça me faisait peur que mon mari ne prenne pas sa part là-dedans. C'est d'ailleurs la psy qui m'a dit, si vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir si c'est possible ou pas. Donc du coup, c'est un peu ça qui m'a fait aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans mes motivations, mais c'est vrai que j'avais besoin de savoir avant de faire mes études, parce que le fait de faire mes études, c'est que je suis à la maison. Donc du coup, je n'ai pas envie qu'ils se disent que c'est comme avant et que du coup, sur le temps où je suis en train d'écouter un cours, que c'est juste audio, je peux quand même faire la vaisselle ou je peux m'occuper du linge. Donc voilà, même si on est au clair que voilà, je me suis fait un emploi du temps, que ces heures-là, elles sont faites pour étudier, bon, ça, j'avoue que j'ai quand même un peu peur, mais j'ai peur de ce que lui peut penser, mais de ce que moi aussi, je me dis, oh là là, je suis à la maison, donc du coup, il faudrait que je fasse ça. Hein. C'est pas que de lui. Hein. Je veux vraiment bien insister là-dessus. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait bien de faire un petit test. Et donc, ça vient dans mon truc de petit... ça rentre vraiment dans ma motivation de recherche sociale, de voir comment ça peut marcher, de comment est-ce que ça peut se répartir les tâches si je suis autant d'heures à l'extérieur que lui. Et je suis, je sais pas si surprise c'est le bon mot, mais agréablement, je vais quand même dire surprise, de voir que pour l'instant, ça fait que 3 semaines, hein, mais pour l'instant, ça marche très bien. Je veux quand même dire que ça fait depuis 2 ans que je lui rabâche mon féminisme. Non, mais c'est vrai que même en tant que mère au foyer, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas femme au foyer, mais mère au foyer, ou même parent au foyer, je n'utilise pas femme au foyer, parce que pour moi, je suis mère au foyer, et donc du coup, tout ce qui est à la maison, donc, c'est-à-dire cuisine, course, linge, repassage, ménage, tonte de la pelouse, gestion des comptes, administratif, blablabla, toute la charge mentale autre que l'éducation, tout ce qui ne relève pas des devoirs, par exemple, que pour avoir un ou une assistante maternelle ou la crèche, ça, tout ça, tous les autres, ça doit être partagé équitablement, je dis pas façon forcément égalitaire, mais équitablement entre les deux parents. C'était compliqué, c'était toujours de mieux en mieux, mais c'était toujours déséquilibré, et franchement, j'ai un peu l'impression que le fait que j'ai le travail, ça a foutu un coup de pied dans la fourmilière et ça a fait vraiment bouger les choses. Ce serait intéressant de me peut-être poser la question en août pour voir si c'est toujours le cas, si c'est parce que aussi c'est peut-être l'attrait de la nouveauté, le fait qu'ils voient que au début t'es quand même plus fatiguée quand tu prends un autre rythme, etc. Donc peut-être qu'il prend plus par rapport à ça. Mais franchement, j'ai jamais vu autant de progrès chez mon mari dans cette répartition des tâches depuis que je ne suis pas là pour les faire. Peut-être que c'est parce que je lâche plus prise sur certaines choses et que du coup je suis moins exigeante aussi. Peut-être que c'est parce que je sais très bien qu'il n'a pas trop confiance en lui. Et au travail, c'est pareil. Il travaille beaucoup mieux quand son patron n'est pas là. Je ne me pose pas en position de patron, de choses comme ça, mais c'est vrai que comme c'est moi qui fais plus les choses, forcément c'est moi qui sais mieux les faire, et donc du coup peut-être qu'il lui apprend aussi les choses. Donc du coup, finalement avec Charlie, et ça je l'ai toujours observé, il est beaucoup plus à l'aise quand je ne suis pas là que quand je suis là. Parce que du coup quand je ne suis pas là, il va stresser et puis il va me dire « Ah tiens, prends-le, gère parce que toi tu gères mieux. » Mais vraiment... Alors, c'est un problème patriarcal, hein, tout à fait, mais dire c'est vraiment pas de la méchanceté ou de l'envie de déléguer et de ne pas faire, c'est vraiment de, par rapport, en tout cas chez Alexis, de la confiance en lui qui est mauvaise et qui, du coup, le fait qu'il ait un relais, il va se dire, de toute façon, elle va mieux faire, donc je vais lui laisser. Mais du coup, vu qu'il n'a pas de relais, il est obligé de faire, il est obligé de trouver des tactiques, il est obligé de réfléchir par lui-même à « Ah là, attends, j'ai foiré, il faudrait peut-être que je fasse autre chose. » Et finalement, ça le fait beaucoup plus avancer.
C'est un peu comme avec les enfants, finalement, le parallèle est sympa, mais c'est un peu comme avec les enfants où finalement... qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est les punitions ou les conséquences des comportements et des actes. Mais voilà, moi je suis dans une problématique en fait où consciemment, intellectuellement, en théorisant si tu veux, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais j'ai quand même peur de franchir le pas parce que ben justement j'ai peur de moi devoir assumer les conséquences et que lui trouve toujours un moyen de se défiler et de pas faire. Si on était que tous les deux, ce qui a été le cas, hein, puisqu'on a été mariés 3 ans avant d'avoir Meïssa, si on était que tous les deux, je pourrais me dire tant pis, je laisse. Et puis, on verra bien jusqu'où ça va. J'ai déjà fait cette technique. Le problème, c'est qu'avec les enfants, je sais que les conséquences, il n'y aura pas que nous deux pour les subir, il y aura aussi mes enfants. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que mes filles n'aient pas de vêtements propres, je ne peux pas accepter qu'elles n'aient pas à manger à table le soir, je ne peux pas accepter qu'elles subissent des engueulades à répétition parce que ben, ça sera forcément un sujet de tension. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans la dynamique de mon couple, soit je vais prendre sur moi, faire et ne rien dire, soit je vais être obligée de lui rentrer dedans et de vraiment m'énerver, parce qu'il fonctionne comme ça, vraiment m'énerver pour que les choses soient faites. Mais, encore une fois, tout ça, ça sera chronophage. Parce que au lieu que ça coule, eh ben, il faudra passer donc une engueulade, 3 jours où il me parle pas, où il fait rien, et moi je devrais le faire toute seule, pour qu'ensuite il finisse par faire. Et pendant tout ce temps, il faudra que je trouve des stratagèmes pour l'amener à faire les choses, alors qu'il devrait simplement faire ce qu'il y a à faire, comme moi je fais ce qu'il y a à faire, sans me poser de questions. Mais là encore, comme tu dis, c'est un problème patriarcal, c'est-à-dire que pour lui, il n'a pas à faire ça. C'est pas à lui de le faire. Implicitement, c'est à qui de le faire. Donc c'est à moi ou alors c'est aux enfants. Mais non, en fait, ce sont des enfants. Oui. Mais ça, c'est vraiment... C'est la construction, quoi. C'est-à-dire que pour lui, lui, il va travailler et c'est pas à lui de faire le reste. Alors que si, en fait, comme tu l'as dit, tout ce qui... Moi, je suis aussi mère au foyer, je ne suis pas femme au foyer. Je ne l'ai jamais été, puisque moi, quand j'avais pas d'enfants, je travaillais. Mais... Mère au foyer, ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire que je suis la mère au foyer. Je suis là pour m'occuper des enfants. Je ne suis pas là pour m'occuper de tout le reste. Je peux éventuellement faire certaines choses, puisque c'est normal. Mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas rémunérée pour ça. Mon temps n'est pas extensible. Et s'occuper d'un enfant, c'est un travail. On rémunère des gens pour qu'ils s'occupent de nos enfants quand nous, on va travailler. Donc de la même façon, mon travail, c'est de m'occuper des enfants. Et de tout ce qui va avec les enfants. Mais mon travail, c'est pas de sortir les poubelles. Mon travail, c'est pas de faire son linge. Mon travail, c'est pas d'aller faire les courses. Ça, c'est les tâches domestiques qui sont le travail de chacun. Mais ça, c'est pas intégré pour lui. Et je pense que c'est pas le seul, hein, honnêtement, quand je discute autour de moi, c'est loin d'être le seul. Il est pas du tout déconstruit, même si, encore une fois, moi aussi, je lui rabâche mon féminisme, mais... Il n'est pas du tout dans cette démarche-là d'accepter cette déconstruction. Je pense qu'il y a aussi une question de loyauté par rapport à son éducation. Il a été élevé par une mère au foyer et son père donc, travaillait beaucoup, il était médecin. Et donc pour lui, c'est normal que ce soit la mère qui fasse tout à la maison. Et il a intégré ça puisque c'était son modèle en fait. C'était son modèle et sa mère a une façon de faire, c'est-à-dire que les enfants ne font rien. Moi, je sais pas comment c'était chez toi, mais moi, ça a dû commencer vers 8 ans à peu près, on a commencé à avoir des tâches domestiques à faire avec mon frère. Et d'ailleurs, tous les deux, les mêmes choses. Vider la vaisselle quand il a fini de tourner, mettre le linge au sale, voire faire tourner des machines, les étendre, passer l'aspirateur, débarrasser la table, mettre la table, aider à faire à manger... Quand on revient des courses, on sort les courses. Ça, tout ça, c'est des trucs que les enfants peuvent parfaitement faire à la maison et auxquels ils peuvent participer. Et pour ma mère, donc non seulement ça l'aidait à faire ce qu'il y avait à faire, mais en plus de ça, ça nous a appris que tout ne se fait pas tout seul. Parce que ça aussi, c'est quelque chose... Voilà, tout ne se fait pas tout seul. Je veux dire, les vêtements propres n'arrivent pas tout seul dans l'armoire. Il y a tout un processus qui fait qu'un vêtement qui est sale va redevenir propre et se retrouver bien plié dans l'armoire. Chez mon mari, c'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ma belle-mère fait tout. si on est en train de manger au dîner par exemple, qu'il y a une de mes belles-sœurs qui décide qu'elle ne veut pas manger ce qu'il y a à table, ma belle-mère va se relever et va aller préparer autre chose. Donc lui, il a été élevé comme ça. Il a été éduqué comme ça que les choses, en fait, ce n'est pas à lui de les faire. C'est pas à lui, c'est à sa mère de le faire. Et moi, j'ai un peu pris le rôle de sa mère. Et je suis devenue la mère au foyer. Mais je suis pas seulement la mère au foyer de mes enfants, je suis la mère au foyer de mon mari aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, totalement, parce que c'est vrai qu'à un moment, ça a commencé à être un petit peu comme ça chez nous. Et après, j'ai eu ma grosse prise de conscience féministe. Et je lui dis, non, on va pas commencer à faire ça, là. Les femmes ne sont pas des elfes de maison. Ce serait très possible que ce soit une allégorie de la femme au foyer dans un régime patriarcal, les elfes de maison.
Donc, c'est possible.
Oui, donc j'ai dit stop. Et puis je lui ai dit, attends, mais on peut pas faire ça. Et en fait, Alexis, c'est vrai qu'il a grandi dans une famille où c'était... En fait, ça, il n'a pas du tout eu la même éducation que moi, dans le sens où moi, j'ai eu la mère au foyer, puis qui travaille, mais à 80% pour pouvoir s'occuper des enfants quand elle n'était pas là, mais avec le père qui travaille beaucoup, beaucoup, mais par contre, avec quelques tâches quand même qu'on devait faire, même si c'était peut-être pas autant que ce que tu dis que tu faisais. Mais je me rappelle quand même avoir... Putain, ça il faudrait que... Maman, si tu m'écoutes, pardon. Une fois, je lui ai dit, c'est toi la mère, c'est toi qui as voulu ça, donc c'est à toi de tout faire. Oh putain, l'horreur. Alors, vraiment, le patriarcat intériorisé par la gamine de 14 ans, quoi. C'était parce qu'elle m'avait demandé de... Elle avait dû me demander de passer la serpillière. Donc, enfin bref. Mais Alexis, lui, c'est vrai que c'était pas tout à fait pareil parce que au début, c'était sa mère qui travaillait à l'extérieur et son père, il travaillait à l'extérieur aussi, mais il était musicien. Donc du coup, bah, il travaillait que le samedi, le dimanche. Donc finalement, c'était plus lui qui s'occupait d'eux. Donc c'est vrai qu'il a pas eu trop ce modèle-là. Donc j'ai la chance. J'aime pas. Vous comprendrez mon dégoût à dire la chance. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas trop dans ce modèle patriarcal, même si il est quand même dans le modèle patriarcal de c'est sa mère quand même qui faisait tout ce qui était responsabilité. Donc c'est vrai qu'il a du mal avec les responsabilités par rapport à ça, et aussi par rapport au fait qu'il a très peu confiance en lui. Mais du coup, c'est vrai que donc il y a quand même, hein, ça reste un homme dans une société patriarcale, donc forcément empreint de biais, comme moi je suis une femme dans une société patriarcale empreinte de biais. Donc du coup, c'est vrai que je pense que je pars de beaucoup moins loin que toi, et je pense que je l'ai fait parce que je me disais que ça pouvait être le moment pour lui de prendre plus de responsabilités. Ça fait 2-3 mois qu'on est en thérapie de couple, qui dit à la thérapeute qu'il a envie de faire. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment pour lui d'avoir l'opportunité de le faire. Et puis tant pis, c'est que 4 mois, même si c'est 4 mois où ça se passe très mal, et bah au moins on pourra en tirer les conséquences, que ça soit après, j'en sais rien, pour continuer dans une direction différente ou pour faire des ajustements, j'en sais rien. Mais je me suis dit, c'est le moment ou jamais de faire un test par rapport à ça. Parce que je sens que ça peut être le moment pour lui et qu'il est assez ouvert pour faire ça. Et franchement, pour l'instant, je suis contente. Je voulais revenir, en parlant de patriarcat, sur quelque chose que tu as dit dans ton commentaire précédent et qu'on a un petit peu digressé. C'est le rapport au corps et les valeurs en général par rapport au travail. Parce que ça, c'est, bah, j'en ai légèrement parlé par rapport au fait que je m'obligeais à me maquiller. Surtout que bah, toutes les deux, donc que ce soit moi à la réception ou toi en commercial, on est dans des métiers de présentation, entre guillemets. Donc du coup, il y a toute cette dimension attachée au corps de la femme qui peut être importante, je pense, à développer dans cette dynamique aussi de société patriarcale et par rapport au travail, et qui, moi, franchement, était un frein. Comme je l'ai dit, par rapport au port ou non du soutien-gorge, à reprendre. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Bah, tu as parlé des vêtements et tout, mais est-ce que tu peux développer? C'est quelque chose qui t'embête, qui te... Est-ce que tu as peur de la dimension d'être une femme dans le monde du travail?
Moi, j'ai un parcours, en fait, où j'ai été aux antipodes à chaque fois du corps, de l'apparence dans le travail. Donc, j'ai un BTS esthétique cosmétique. Voilà. Donc, j'ai fait mes études pour être plus ou moins esthéticienne. Donc, il fallait tous les jours être maquillée en total, c'est-à-dire il fallait le teint, les yeux, les lèvres, les sourcils, c'était obligatoire, sinon tu étais convoquée dans le bureau de la directrice. On avait interdiction de porter des jeans et des baskets, il fallait donc être soit en pantalon classique, soit en jupe, avec éventuellement des ballerines, mais si possible des escarpins. Il fallait avoir les cheveux attachés sans mèche qui tombe, donc un chignon haut ou une queue de cheval ou éventuellement les cheveux courts. C'était très très strict, je me suis fait convoquer beaucoup parce que je respectais pas les critères, alors qu'à l'époque j'étais pas du tout déconstruite et je me maquillais quand même tous les jours. Mais c'est vrai que se maquiller autant, c'était compliqué. Donc ça, j'étais très jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années. Ensuite, j'ai fini donc mes études, j'ai eu un poste en parfumerie, j'ai pas du tout aimé le milieu, mais alors pas du tout. Avec le temps, je me dis que je ne pourrai jamais, mais jamais retourner dans ce milieu-là, parce que c'est plein d'injonctions envers les femmes. C'est pour moi vraiment, c'est le symbole du patriarcat. Vraiment. C'est-à-dire que les hommes viennent pour acheter un cadeau pour leur femme ou leur mère, et c'est toi qui dois. Ou leur maîtresse, alors quand c'est ça, ils tulsent. Non, mais ça arrive. Ça arrive même qu'en fait, ils prennent le même parfum pour leur femme et pour leur maîtresse, pour pas, tu sais, qu'il y ait de transfert.
Horrible. Bon, vas-y,
oui,
excuse-moi.
Ça m'est arrivé. Non, mais oui, mais ça m'est arrivé une fois, hein, monsieur. Il a été très clair, hein. Il m'a dit, c'est pour deux femmes différentes, mais bon, il faudrait que ça soit exactement la même chose. Bref, on a compris, quoi. Et donc j'ai fait ça, et le dernier emploi où je me suis vraiment plu, parce que je vous passe les tafs de télévendeuse purement alimentaire, j'étais commerciale en fait dans l'affûtage, donc mon travail, donc l'affûtage, hein, l'affûtage de lame pour la découpe du bois, de l'aluminium, tout ça. Donc mon travail en fait c'était d'aller récupérer les outils à affûter chez mes clients, de les ramener au dépôt pour que mes collègues affûteurs les affûtent, et de les ramener la semaine suivante. Et je vendais aussi, bien sûr, des outils de découpe. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, ça n'intéresse personne. Mais, j'étais une femme dans un monde d'hommes. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Allez, si, j'avais 3 clientes femmes. Sur les 15 clients que je faisais par jour, à la semaine, j'avais 3 clientes femmes. J'avais une menuisière... Et j'avais 2 femmes qui géraient, en fait, simplement de me donner les trucs. C'était un peu des secrétaires, si tu veux, qui géraient de me donner les trucs. Mais c'est les seules femmes que je rencontrais. Pour le reste, c'était uniquement des hommes. Moi, ça m'arrangeait bien, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans une ambiance sororité, les femmes, c'est cool, soyons féministes. J'étais plutôt dans l'idée que travailler avec des femmes, c'était des problèmes. Voilà, parce que toutes les entreprises où j'étais passée, bah, ça se crêpait le chignon, ça se tirait la bourre tout le temps, et c'était pia pia pia, vraiment, tu sais, le stéréotype qu'on a des entreprises et des milieux de femmes. Bref, donc je ne travaillais qu'avec des hommes, ce qui m'allait très bien. Mais je ne portais plus de soutien-gorge déjà quand même depuis 3 ans. Après, j'avais pas des vêtements près du corps, en général, l'hiver j'étais en polaire et en jean avec mes chaussures de sécurité. Pas maquillée, évidemment. Coiffée le plus serré possible, parce que fallait pas que mes cheveux me gênent, parce que j'ai pas que ça à faire que de remettre mes cheveux quand j'ai 80 kg de lame à porter, parce que c'était le cas. Donc forcément, voilà, ça m'allait très bien. Et on m'a jamais demandé de faire un effort sur mon apparence ou quoi que ce soit. Moi, mon responsable, il s'en foutait complètement. Du moment que je faisais mon travail, et en plus... C'est pas pour me vanter, mais je le faisais bien. J'ai augmenté le chiffre d'affaires du secteur, alors que mon collègue que je remplaçais, qui était en arrêt maladie, était sur le secteur depuis 10 ans. Donc tu sais, tu noues des relations quand même avec les gens. Et en fait, bah, concrètement, j'ai augmenté le chiffre d'affaires. Donc c'est que ça se passait quand même bien. Et ça, j'ai quand même réussi à le faire sans rentrer dans une démarche de séduction vis-à-vis de mes clients. Donc sans jouer à faire des allusions ou quoi que ce soit. Et je vais te raconter une histoire qui m'avait particulièrement choquée à l'époque et qui me choque encore plus aujourd'hui. J'avais un client qui me disait « Non mais t'as raison, faut faire attention, c'est bien que tu te mettes pas en jupe et tout ça pour travailler. » Alors déjà, travailler en jupe dans ce milieu-là, je vois pas trop comment j'aurais fait, sachant que la plupart du temps, j'étais dans des ateliers poussiéreux ou voire même dans des fermes. Enfin bon, c'est invraisemblable. Mais il me dit « Tu sais, t'as une collègue, enfin une consoeur sur le secteur qui travaille pour un concurrent, dont je ne citerai pas le nom, mais qui s'est fait attraper par trois gars dans l'atelier de machin. » Pardon ? Il me dit oui, c'est arrivé il y a quelques mois et tout, mais en fait, cette entreprise-là, ils poussent en fait leur commercial, eux, à s'habiller de façon provocante pour vendre. Ben là, elle est tombée sur trois tocards et en fait, elle s'est fait violer par les trois gars dans l'atelier. Et je me dis, mais waouh ! Alors déjà, bon, alors la tenue n'est pas une invitation, qu'on soit bien d'accord, mais à quel moment, en fait, ton employeur, il te dit... Habillez-vous de façon provocante, parce que c'est les termes, hein, habillez-vous de façon provocante pour vendre. Est-ce qu'on dirait à un homme de s'habiller de façon provocante pour vendre à une femme ? Jamais. Jamais. Et là, la pauvre femme, elle s'est retrouvée avec trois déglingués qui se sont dit « c'est une invitation ». Et ça n'a pas changé.
La question de, est-ce que t'as peur dans le monde du travail ? Parce que moi, j'avoue que c'était un... une peur, et je suis très contente du village vacances dans lequel je suis tombée, parce que j'ai ma responsable qui est vraiment top là-dessus. Il n'y a vraiment aucun, bah comme je disais, pas du tout, on m'a pas du tout demandé de me maquiller, alors que je suis quand même à la réception. Faut savoir que moi j'ai déjà fait des hôtels 3-4 étoiles, forcément il fallait que je sois maquillée, hein, voilà. Donc l'uniforme va très bien finalement, parce que c'est exactement la même tenue pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, j'ai quelques collaboratrices qui se mettent en jupe. Moi personnellement, je ne me mettrais pas en jupe, parce que voilà, tant que les hommes ne sont pas acceptés en jupe, ce que je pense par contre, que s'il y avait un mec qui s'est mis en jupe, je pense qu'il aurait une remarque. Bah, je sais pas en fait, j'espère pas, mais je pense quand même. En tout cas des clients, ça c'est sûr. Je ne me ramènerai pas en jupe pour des raisons égalitaires. Voilà, donc c'est vrai que déjà par rapport à l'uniforme, ça m'aide qu'il n'y ait pas d'uniforme genré. Voilà, par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai que une de mes craintes, avant de connaître la clientèle et donc du coup ma hiérarchie et leur positionnement... En fait, je sais pas leur positionnement, mais c'est vrai que, en fait, pour l'instant, ce n'est pas une question, quoi. Donc, du coup, je trouve ça bien que ce soit pas une question. Après, s'il y a un problème, à voir quel est leur véritable positionnement sur ça. Mais c'est vrai que j'avais peur un petit peu des remarques des clients. Ça m'est déjà arrivé en hôtellerie, mais surtout plus de luxe d'avoir quelqu'un qui disait « Oh, bah moi, je veux bien que vous m'accompagniez jusqu'à ma chambre. » pourtant j'ai pas beaucoup de valises, mais bon voilà quoi, vous pouvez m'accompagner dans ma chambre, vous êtes une jolie jeune fille. Bah non, je sais pas, il n'y a pas de service de proxénétisme ici monsieur. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé des choses comme ça. Il y a des séminaires qui sont là, du coup c'est vrai que ça me faisait peur. Pour l'instant, vu la clientèle, c'est vraiment pas le genre. En fait, je suis en train de faire des gros stéréotypes là-dedans. En fait, le type de clientèle que je vois faire ça, c'est plutôt la clientèle très riche. Des hommes très riches qui prennent les femmes pauvres pour des objets. Mais c'est très stéréotypé, donc j'en sais rien en fait.
Peut-être que plus t'as de privilèges, plus t'as tendance à avoir ce genre de comportement.
Oui, bah c'est pour ça que je disais ça, mais bon, enfin bref, du coup, je sais pas du tout, donc je suis désolée si c'est des préjugés, mais de toute façon, tout le monde a des préjugés. Mais ce qui est bien, c'est de savoir dire que ça peut l'être. Donc voilà, donc, peut-être que ce sont des préjugés, excusez-moi si c'est pas une vérité générale. De toute façon, rien n'est vérité générale. C'est vrai que ça me faisait un petit peu peur, maintenant moins, mais cependant, c'est vrai que j'entends quand même beaucoup de sexisme, que ça soit des clients ou de mes... collaborateurs et collaboratrices, hein, j'entends bien de mes collaboratrices aussi, les clients qui ça a été, c'est déjà arrivé, j'ai compté 5 fois en 2 semaines, parce que ça fait 3 semaines que j'ai commencé, mais 2 semaines que l'hôtel est ouvert. Donc 5 fois que en 2 semaines, j'ai des clients qui parlent des petites demoiselles comme potentiellement sexy et donc du coup à leur disposition, contre une femme sur un de mes collègues hommes. Mais il y avait là, pour le coup, il y avait un contexte parce que l'animateur a dit qu'il était célibataire. Donc voilà, c'est pas du tout pour excuser, mais c'est pour dire qu'il y avait un contexte, alors que les autres c'était vraiment sorti de nulle part. Donc voilà, mais quand même je pense que rien que ça, alors je dis ça ne vaut pas du tout vérité générale, mais ça corrobore des résultats de sondages qui peuvent être faits, que voilà, les femmes sont quand même beaucoup plus objectivées, surtout dans le cas de travail, surtout quand il y a des uniformes, parce que, bon, je disais, c'est bien qu'il y ait des uniformes, mais en même temps, heureusement, c'est pas du tout des uniformes qui sont sexy, parce que, et puis franchement, le polo rouge, c'est vraiment moche, mais c'est vrai que dans l'hôtellerie de luxe, en général, c'est pas du polo rouge qu'on te demande, c'est, il faut montrer un peu de chair, machin, truc, et un peu ce que tu disais, que le sexe, ça fait vendre. Donc le sexy, ça fait fondre aussi. Et moi, je suis vraiment contente de tomber dans un truc qui n'est pas là. Et c'est vrai que bon, une des raisons aussi pour lesquelles je me tourne, c'est vraiment une toute petite raison, mais ça fait partie des raisons sur le monde du travail par rapport à l'antisexisme, c'est pour ne pas être confrontée à des problématiques sexistes. Moi en tout cas, parce qu'il y en aura toujours, même dans le mouvement très déconstruit du féminisme, mais forcément il y en aura moins, il y aura personne qui va venir me dire de me maquiller et tout, et voilà. Mais par contre, je vois par rapport à moi-même, comme je le dis, les premiers jours, je me suis forcée à me maquiller. Je me suis allée m'acheter un pantalon noir parce que j'en avais pas, et puis je me suis dit, j'aimerais bien m'acheter des vêtements. Et le fait, en fait, d'être de retour dans la société, eh ben, j'ai mes gros biais du fait d'être jolie pour les hommes qui remontent. J'ai pas très confiance en moi. Alors, dans mon domaine de travail, oui, mais j'ai pas très confiance en moi en tant qu'individu. Je sais que m'habiller de façon sexy, ça peut m'aider avec mes collègues hommes. Je sais plus, j'avais lu des études sur ça, et puis bon, on voit bien par rapport aux réactions que on te prend plus au sérieux ça te fait un peu, je sais pas si c'est au sérieux, si c'est le bon mot, mais t'es plus t'as plus de valeur en fait si t'es belle, t'es bien habillée, que ce soit aux collègues femmes et aux collègues hommes d'ailleurs, si tu corresponds aux critères classiques, ça se passe mieux. Et du coup, j'ai ces biais-là qui ne viennent pas forcément des gens, mais qui viennent de la société et qui de moi-même, ça me ressort et ça me fait chier. Parce que j'avais l'impression de les avoir bien déconstruits, mais en fait c'était aussi parce que j'étais dans une sphère qui ne me faisait pas de réflexion et qui ne me poussait pas à ces choses-là.
Donc, oui, voilà. Je comprends ce que tu veux dire. J'avoue que moi ça m'inquiète un peu aussi de me dire ce que je disais tout à l'heure, en fait, finalement, que je vais me retrouver avec des gens que j'ai pas choisis. Et clairement, j'ai vraiment peur de subir en fait ce genre de mentalité à longueur de journée, parce que ça s'insinue dans tout, et les biais sexistes des femmes, pour moi, sont pires que le sexisme des hommes.
Bon, merci beaucoup Pauline de m'avoir posé cette question, d'avoir profité de la malheureuse absence d'Émilie pour qu'on puisse parler de ce retour au travail et puis de tes questionnements par rapport à cette question. Je te dis au revoir et puis je te dis au prochain épisode.
Au prochain épisode, Léa, passez une bonne journée.
Salut. l'oreille quand on est jeune parent, c'est toute une histoire. Qu'elle soit douce, progressive, rapide ou brutale, elle apporte une nouvelle dynamique à la vie de famille et bouleverse l'équilibre trouvé. Parfois, elle permet de trouver un juste milieu entre ses besoins en tant qu'individu et ses besoins parentaux. Parfois, non. Ou parfois, pas comme on l'aurait souhaité. Mais tant qu'on ne l'a pas essayé, c'est impossible de le savoir. C'était l'écho des mères. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Vous pouvez nous retrouver tous les premiers vendredis du mois sur vos plateformes de podcast habituelles, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram sur le compte L'écho des mères. Le lien est dans la description. À bientôt !